podcast.com. Essaye ça.
Sidérant. Si vous avez jamais essayé ça, ce jeu-là, la trame sonore qui est en train de vous être offerte en background dans ce terrain basique le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering, ben, je vous le recommande fortement. C'est probablement, tu sais, avec les classiques, le Zelda du Super Nintendo, probablement Final Fantasy 4, 6, qui était 2 et 3 à l'époque, Super Metroid, bien entendu, quelques autres classiques indémodables. Moi, c'est quand même ma console préférée ever. Il y a ce jeu-là qui passe souvent sous le radar. C'est un jeu de vaisseau avec des power-ups. Tu as 8 power-ups différents qui ont chacun 8 degrés de force différentes. En plus d'avoir des bombes, en plus d'avoir toutes sortes de... En plus que chaque power-up a plus qu'une fonction. Fait que tu peux peser ton bouton R pour changer ton arme. Space Mega Force, presented by Toho. C'est vraiment un des meilleurs jeux de la console. Pour les fans de vaisseaux, moi j'adore ça, les jeux de vaisseau, que tu tires plein de balles dans un gros vaisseau, puis à un moment donné, il y a un pan qui explose, fait que là, il devient plus fort, le vaisseau. pourquoi ça fait ça, la vie? Je ne sais pas. J'ai aucune idée de pourquoi ça ferait ça, mais c'est ça que ça fait. Hein. Tu veux garder, je sais pas, moi, ton arme ultime pour pas avoir à réparer ton vaisseau, tu veux garder ça caché, c'est logique. Tout ça tient, donc merci à Jason qui est là. Salut Jason.
Hey, bonjour, bonjour.
Ben oui, je parlais de toi en premier parce qu'on a entendu dire que ce soir, c'était surtout Emmanuel qui était pour Goal et le show avec les actualités de ce qui est en train de se passer au niveau professionnel, hein, du gros Magic, hein, qui est les gens qui essayent de ressusciter le jeu probablement. Ce serait les docteurs de terrain pour essayer de nous ramener l'intérêt avec ce jeu moribond qu'on a.
Ils n'ont pas le choix, c'est leur gang-pain, hein, de Tommy. Donc ce soir, on va parler du Neon Dynasty Championship qui a eu lieu en fin de semaine. T'as écouté ça, Eman?
Ben oui, j'ai écouté ça avec attention. Un petit peu le vendredi, un petit peu le samedi, pas mal le dimanche. Là, où est-ce que tout se passait? Hein? On sait que c'est toujours le dimanche, le top 8. Là, fait que oui, c'était le Neon Dynasty Championship. Explique-nous, on a-tu des affaires à jaser avant ou on se lance là-dessus?
Non, mais pour les ceux qui sont comme méconnaissants un peu, yep. Décris-nous, c'était quoi le championship cette année?
Ouais, ben le Neon Dynasty Championship, là, c'est le même qu'ils font à peu près là, aux 3 mois. Ils font un gros championnat. Ouais. Avec les joueurs de la Pro League, là, de la MPL, puis de la Rivals League.
Les gens qui gagnent leur vie en jouant Magic.
Ouais, ainsi que ceux qui ont fini dans le top du dernier championship. Et tous ceux qui se sont fait, qui sont passés par les qualifiers, que ce soit en papier, sur Arena ou sur Magic Online, ce qui nous donne à peu près là, 230 joueurs là, qui compétitionnaient toute la fin de semaine pour se séparer la modique somme de $450,000. Tu sais, je peux vous partager mon petit document que je vous ai préparé.
Ça, c'est comme la dernière fois là, avec l'Asiatique qui avait pleuré à la fin. Là, ça...
Yatta! Exactement. Mais ça, c'était le championnat du monde. Là.
Championnat du monde au mois d'octobre. Puis,
c'est aussi un Japonais qui avait gagné le Championship, mais il n'avait pas pleuré. Ben, peut-être. Là, ben.
C'était plein de Japonais qui avaient fait le top 8.
Ben, c'est une des grosses écoles, là, une des grosses pas écoles, mais avec des grosses teams.
Oui, ils s'arrangent contre nous autres parce que là, c'était les Japonais qui gagnaient, puis on s'en va dans un set à thématique japonaise. C'est comme de crisser un bâton d'un roi à tout le monde.
C'est écrit. Mais oui, c'est, tu sais, on est rendu avec pas mal de grosses équipes là, qui s'entraînent ensemble. Justement, les Japonais, ils ont encore plus, ils ont rajouté dans leur rang, tellement qu'ils ont splitté l'équipe en deux pour pratiquer chacun des formats. Parce que souvent, là, les championships, dernièrement, ils splittent les formats, ils font ça en deux formats. Puis, cette fois-ci, c'était en historique, un classique des championnats sur Arena, et le nouveau format Alchemy qui était la finale qui était jouée sur Alchemy. Les premières rondes, les 15 premières rondes là, pour faire le top 8 étaient moitié-moitié historique et alchimie. Donc, c'était comme les débuts de ce nouveau jeune format en version compétitive, sur la scène compétitive. C'est un format, pour ceux qui sont moins familiers, là, c'est un format que Wizards a mis de l'avant pour un peu répondre aux critiques selon lesquelles le standard devenait rapidement moribond à cause du nombre de matchs qui sont joués sur Arena. La méta se stagne assez rapidement. Fait qu'ils ont décidé, ils ont dit, on va se faire un format où est-ce qu'on peut répondre facilement.
Changer les
cartes directement plutôt que de faire des bans à tous les un mois ou des suspensions, etc. Là, on va modifier les cartes un peu. On va rebalancer tout ça, puis on va rajouter, tant qu'à y être, des cartes qui fonctionnent seulement de façon digitale, avec des cartes qui conjurent des nouvelles cartes de Out of Nowhere ou qui changent le texte sur les cartes
de façon perpétuelle.
Là.
C'est ça, là, il y avait -2/-1 à une créature pour toujours. Là, puis...
Par exemple, voilà. Puis il y en avait sorti un set à côté du dernier Innistrad qui était sorti avec Crimson Vow. Puis là, il y a le prochain qui va sortir. Il n'était pas encore sorti pour le tournoi, mais ils en ont profité pour annoncer les nouvelles cartes qui s'en viennent pour la version alchimie de Kamigawa Neon Dynasty.
Ah ouais, déjà, il y a des affaires à modifier après deux.
Ben en fait, c'était déjà annoncé qu'il allait sortir des nouvelles cartes, qu'il allait avoir des cartes alchimie qui allaient venir avec le set.
Ah, je comprends.
Ils n'ont juste pas sorti en même temps que le set. À savoir s'il y aura déjà des modifications qui seront faites sur les cartes de Neon Dynasty, on ne le sait pas. On sait qu'il y a déjà eu des rebalancements qui ont été faits sur Alchimie pas très longtemps avant le tournoi. Certains ont trouvé ça un peu bizarre. Mm-hmm. Soit sur des cartes qui existaient déjà ou même des cartes de Alchimie qui étaient sorties dans le Alchimie Crimson Vow. On va en voir quelques-unes tantôt quand on va regarder les decks.
Juste avant le tournoi, on s'entend, c'est un petit peu rough là, parce que là, il y a du monde, ils ont préparé leurs affaires, le méta, blablabla, tout. Oui. Ouais, c'est rough. Avant ouais,
c'était
tournoi,
c'était questionnable, mais ça va écoute. D'habitude, ils attendent un petit peu avant de faire ça, mais là, c'était là que ça se passe.
Puis sinon, peut-être avant d'aller un petit peu plus creux dans ça, on peut rappeler qu'on avait callé ici à toi-même, Emmanuel, t'avais callé en nous présentant un ninja que c'était celui qui était pour tuer Magic la prochaine fois, le ninja qui donnait Ninjutsu 4 à toutes les créatures que tu avais dans ta main. Fait que tu pouvais sortir n'importe quoi de big, 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 puis mettre ça sur le jeu depuis ta main. Ça compte pas comme être casté, hein? Ça fait que tu...
Non, Ninjutsu, c'est un activité d'habilité.
Ouais, c'est ça.
Ça peut être stifled.
Ouais, ça va y aller dans les chiffres bruts plus que dans les... parce que je pensais à l'espèce de grosse horreur 11-11 que quand elle arrive en jeu, l'autre, il exile sa main. Ça peut quand même être...
Mais bon. Je sais pas pourquoi qu'on parle de ça, là, mais c'est correct.
On parle de ça parce qu'on parlait de changer des cartes, puis de Magic qui est mort, puis de Neon dans la...
Mais pour finir sur les prix du Neon Dynasty Championship, à la clé, en plus des 450 000, dont 20 000 aux gagnants, 15 000 aux finalistes, il y avait également les 6 premiers se décrocher un ticket pour le championnat du monde là, qui va se dérouler un peu plus tard. Les spots sont de plus en plus remplis. Il va rester juste 6 sièges à remplir avec les prochains gagnants du prochain championnat qui sera de le Streets of New Capenna Championship. Donc, on peut regarder, c'est toujours intéressant, ça nous donne une petite idée de la méta, comment ça se passe au moment du championnat. C'est pas toujours super représentatif, ça peut changer. Des fois, le monde va amener les decks à cause qu'ils savent que à ce championnat-là, il va avoir telle affaire, mais ça donne une pas pire idée de si vous allez jouer sur le ladder compétitif, quel genre de deck vous allez retrouver. Sur le format historique, c'est pas un format qui va changer beaucoup parce que c'est le format éternel là, entre guillemets de Magic. C'est le format où est-ce que toutes les cartes se retrouvent. Donc oui, il va y avoir quelques petites modifications qui vont se faire avec les nouvelles cartes qui ont été amenées par Neon Dynasty, par exemple. Mais on va retrouver pas mal des clients qu'on a déjà vus dans les derniers tournois. Izette Phoenix là, qui reste en fait qui s'élève au-dessus du pack comme étant pas mal le deck méta qui est l'archétype numéro un, là, l'archétype à battre, qui a toujours eu pas mal de d'outils dans le format historique et ça s'est pas arrêté pour cette fois. Il y a Azorius Control qui a monté un petit peu plus parce qu'il a justement gagné quelques outils avec Kamigawa, dont March of Otherworldly Light là, qu'on voit qui permet de retirer une carte en payant X pour le casting cost, puis tu peux exiler des cartes blanches de ta main pour faire plus 2 au X.
Ouais.
Ils ont ramené Teferi, on l'avait vu la dernière fois avec les rebalances, etc.
En historique?
En historique, oui. Toutes les cartes qui sont rebalancées pour Alchemy se retrouvent en historique.
Ah, c'est vrai.
Ça a un effet un peu. Ben, les joueurs d'historique n'aiment pas trop ça. Mais ça reste comme le format éternel de Magic où est-ce que tu es supposé pouvoir jouer toutes les cartes. Donc, tu joues toutes les cartes.
C'est le Tegeti du futur.
C'est ça. Il y a Golgari Food qui est le deck qui avait gagné le dernier tournoi, le Innistrad Championship.
Le four au chat.
Oui, qui se retrouve quand même avec l'ajout d'un petit écureuil qui se rajoute avec dans tout ça.
Et le Ravenous Squirrel, hein, cas de la semaine. Ouais. Encore une carte de la semaine qui définit un deck qui gagne un tournoi.
Absolument.
On est bon pareil dans nos prédictions.
donc voilà, tu sais, historique, on peut passer vite. On peut se dire par exemple que ça reste un format qui est quand même assez en santé. Là. Il y a une bonne variété. Tu sais, il y a 23,6% des decks qui étaient représentés à 3, 2 ou 1 exemplaire là, de l'archétype. Là. Fait que c'était assez varié. Il y avait quand même le corps qui jouait Izette Phoenix, mais ça va souvent arriver. Fait que c'est quand même. C'est un format où il se passe pas mal d'affaires, puis c'est à s'y attendre là, avec la quantité de cartes qui sont disponibles.
Ben oui, c'est quand même cool, pareil. Ça,
je suis content que.
Un jeu qui est mort, là, c'est quand même pas pire. Ça.
Ouais.
Azorius Aura, je suis content qu'il y en avait pas mal. Là. Ça,
c'est encore là. C'est un deck qui roule depuis un certain temps là, avec les Core Spirit Dancer. Puis les,
il était beaucoup blanc et noir.
Il était blanc et noir. Oui,
et là, il est revenu bleu et blanc.
Là. Ouais. Tout à fait. Ben, le Orz of Aura était encore là. Il y en a 9 personnes qui avaient amené Orz of Aura aussi. Là, mais c'est, oui. Les auras sont encore bien présentes. Puis on va le voir dans le format Alchemy encore plus. C'est un deck qui se joue également en standard. Donc, c'est la première fois qu'on fait un breakdown du méta de Alchemy. T'sais, c'est tous des nouveaux decks. Bon, oui, ça va être assez collé sur le standard, vu que c'est les sets de standard qui sont dedans, plus les cartes d'alchimie. On va retrouver là au sommet du paquet qui est des decks qui ont été amenés. Mono White Aggro, les petits Weenies, puis également.
Les ouais. Trois premiers, c'est aggro blanc.
Ben, c'était, en fait, là, on l'a vu dans le week-end, c'était un week-end très mid-range. Très, 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 très mid-range que ça a été. On va voir là, par la suite qu'est-ce qui s'est démarqué, là, mais c'était, il n'y avait pas le contrôle, a eu de la misère, aggro. Fait ce qu'il pouvait, mais c'était très mid-range là, avoir des réponses un peu à tous les moments de la partie. Donc, Mono White Aggro, on peut regarder de quoi ça a l'air en format Alchemy. Ça ressemble un petit peu au Mono White de base. Là, on reconnaît le Luminarch Aspirant qui a été modifié un petit peu. Les Brutal 14, les Elite Spellbinder, évidemment Skyclave Apparition qui est un must include dans tout deck qui joue du blanc. On remarque l'ajout du Wandering Emperor, qui est le Planeswalker de Neon Dynasty. Mais également deux cartes d'alchimie qui sont importantes à regarder. On va prendre le temps parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'alchimie depuis, fait que c'est le temps. L'Inquisitor Captain, un Human Cleric qui est une 3-3 pour 3 colorless, un blanc qui a vigilance, et quand elle rentre sur le battlefield, si tu l'as casté et qu'il y a 20 ou plus creature cards de mana value 3 ou moins dans les cartes dans ton graveyard, dans ta main ou dans ton library, tu vas chercher, ben, seek deux creature cards, fait que ça va les chercher pour toi, là. Tu les choisis pas, de mana value 3 ou moins dans ton library, et tu vas les mettre sur le une de ceux-là sur le battlefield, l'autre dans ta main. Non, tu la remets dans ton library, pardon. Fait que tu cheat in une de deux créatures qui ont un mana value de 3 ou moins. Quelque chose d'intéressant à noter avec cette carte-là, c'est qu'elle a déjà été modifiée. Elle était sortie avec l'alchimie de Crimson Vow, puis elle a déjà été modifiée depuis. Avant, c'était dès qu'elle rentrait sur le battlefield, ça faisait son effet. Il y a du monde qui avait créé beaucoup de decks qui loupaient des créatures pour le, mettons, le Mimic, le Mirror Hall Mimic, qui était la carte MDFC l'aide bleu, puis de l'autre bord, que quand elle rentre en jeu, elle rentre en copie d'une créature qui est là, fait que la rentrée en copie de celle-là qui allait chercher une autre créature, puis de rentrer en copie de celle-là qui allait chercher une autre créature, qui rentrait en copie de celle-là.
Juste ça te bloquer lui, puis tu peux, il y a plein de bonzes qui font que tu blinks, fait que là tu
refais. Absolument, c'était plein de loops comme ça qui te faisaient que tu te ramassais avec un board de 40 créatures, là, tout d'un coup. Fait que là, ils l'ont tout de suite, la prochaine upgrade, update qu'ils ont fait de l'alchimie, ils ont changé le texte dessus pour que ce soit seulement si tu l'as casté que son effet se fait.
Bon.
Puis une carte qui était assez intéressante pour le côté aggro du deck, le Sea Guardian Evangel, pour un colorless, un blanc, une 3-1, que quand elle rentre sur le battlefield, tu conjures une carte nommée Sea Guardian Evangel, qui est celle-ci, et tu la discardes au début de ton prochain end step. Et quand Sea Guardian Angel rentre sur le battlefield, tu tapes target permanent que tu contrôles pas. Fait que ça, en fin de game, là, si t'as déjà ton board bien établi, l'autre il a ses bloqueurs, si t'en piges une pis t'as 8 mana, ben tu t'en
fais 4.
Tu ramasses en caster 4, taper 4 de ses créatures pis attaquer avec tout ton board.
Donc, voilà.
Puis, vous noterez deux affaires intéressantes dans le deck qui étaient en réponse directe avec l'autre deck que je vais vous montrer juste après, qui était l'autre, qui était pas mal comme l'autre deck à battre dans la fin de semaine. Le Talia Guardian of Traben, qu'on connaît tous, qui rajoute une taxe de 1 colorless sur les non-creature spells, mais aussi le Arcan of Emeria, qui est 2 colorless, 1 blanc pour une 2-3 flying, qui dit que chaque joueur ne peut jouer qu'un seul spell par tour.
Ah, pas fin!
Et également les non-basic lands, là, que ton opponent control rentre en jeu tapé. C'est surtout pour la première partie parce que l'autre deck qui était bien joué puis qui se retrouve pas mal en alchimie, mais aussi en standard en ce moment, c'est le deck de runes. Le deck de Naya Runes.
Les fameuses runes.
Ils ont fini par trouver leur place dans la méta.
Ça aussi, c'était des cartes de la semaine.
C'était les cartes qui étaient dans Kaldheim. Ouais. Les runes, il y en avait une de chaque couleur qui enchantait un permanent. Tu peux le mettre sur un land si t'avais rien à faire avec, ou sur une créature, etc. Puis, quand elle rentre en jeu, tu piges une carte. Ils ont toutes le même effet. Quand elle rentre en jeu, tu piges une carte. Et ensuite, ça donne une habilité au permanent enchanté. Là, c'est un aura. C'est un enchantement. Là, donc, ça donne lifelink, trample, haste, par exemple. Mais ce qui était vraiment le nœud de ce deck-là, c'est ça a été amené avec Neon Dynasty. C'est le Jukai Naturalist, qui est un 2-2 Human Monk pour un vert, un blanc, lifelink, qui dit qui réduit tous les enchantements de spells de 1 colorless. Donc déjà, toutes tes runes te coûtent juste un mana parce qu'elles coûtent toutes deux seulement, soit un rouge, un colorless, ou un bleu, un colorless, etc. Mais aussi jouer en combinaison avec le Runeforge Champion, le 2-3, 2 colorless, un blanc, qui était aussi dans Kaldheim. Quand il rentre en jeu, tu cherches ton library ou ton graveyard pour un rune card que tu révèles, que tu mets dans ta main. Et ça dit que tu peux payer un colorless seulement pour jouer une rune.
Fait que ça coûte gratuit.
Fait que ça coûte gratuit quand tu as ces deux cartes-là en main. Fait que toutes tes runes coûtent rien. Fait que tu les castes, tu piges une carte, tu piges une carte, fait que là tu piges une autre rune, tu rejoues une autre rune, tu piges une autre rune, tu rejoues ta rune.
Claude est assis avec une flûte, là. Il savait pas tout qu'il était pour être seul de même avec son chum barbu.
C'est un deck super explosif.
Il y en avait au Championship?
Ah oui.
Ben oui, Chris, si ça va bien, tu peux. Deuxième tour, t'attaques, pis t'as.
Non, j'ai pas vu de match avec ce deck-là.
Hey, ça peut être.
Il l'appelait comment le mal?
Regarde, il y en avait 42 sur les 230, là. C'était écoute, quasiment 20.
J'en ai pas vu dans les.
Non, mais tu sais pourquoi t'en as pas vu? Parce que ça a pas marché.
Ben c'est ça, c'est ça! Moi, j'ai regardé. Ouais. Moi, j'ai regardé le top 8.
Il y en a aucun qui s'est rendu au top 8. Ça n'a pas marché. Ça.
C'est beau sur papier. C'est parfait pour jouer au musée à Tommy, mais.
Ça marche sur Arena, tout ça aussi, mais je pense qu'il y avait des mauvais. Pas des bons match-ups dans la
méta. C'est bon que t'es à bronze.
Ouais, entre autres. Là, mais non, mais. Mais t'as vu. Mais c'est parce que t'as vu l'autre grosse partie de la méta, c'était les monoblancs, puis ils jouaient des cartes entièrement faites pour contrer les runes, parce que le Arcane d'Emeria, ça te fait.
C'est un par tour.
Tu peux juste jouer un spell par tour. Fait que tu fais pas grand-chose à jouer une rune par tour. Le deck est basé sur le fait que tu peux juste en jouer à l'infini. Parce qu'il ne te coûte rien. T'sais.
Mais attends, ça me fascine. Va voir le deck de runes. 53 qu'il y avait sur 200 joueurs, à peu près, c'est ce qu'on a dit?
42.
Un peu moins de 20%.
C'est quasiment un mean deck. Ça me fait penser les decks qu'on voit dans les débuts de saison, là, quand ça te sort.
Non. Tu vas voir, c'est pas un mean deck.
Non, mais je veux dire, il a l'air le fun, mais ça a l'air d'un one-trick pony, là.
Ouais, ça oui.
Parce que là, c'est tu sais, son autre deck était aussi nombreux, c'était le mono white à taxe, fait que. Ouais. Mais c'est cool, là, je vais l'essayer.
Oui, c'est un deck le fun est très explosif. Là. Quand tu te mets à juste casser plein de runes puis piger des cartes, tu te dis voyons, il me semble que j'aurais pas le droit de faire ça.
Ah, Caldane, c'est tellement fun.
Donc voilà, ça c'est une petite présentation. Oui. Puis après ça, on peut aller à la carte de la semaine puis se concentrer sur qu'est-ce qui s'est passé.
Hey, c'est la carte de la semaine, on va écouter un beat à Bond puis on remercie l'adversaire qui est à l'adresse 4303 Sainte-Catherine Est. Là, ben, c'est ça, on écoute là, c'est le beat à Bond. Machine à café! Est-ce que tu abonnes la trame sonore de Space Megaforce?
Yes! Pour la carte de la semaine, cette semaine, je me suis dit, on parle de l'alchimie, on parle du Neon Dynasty Championship. Ils ont révélé toutes sortes de cartes et ils vont s'ajouter sur Arena. Fait que je vous ai sorti une des cartes.
Oh, une nouvelle!
Qu'ils ont révélé pendant la fin de semaine, ou peut-être un petit peu après, là, parce qu'ils n'ont pas fini de les montrer. Donc, c'est une nouvelle carte. C'est le Bellows Brett Augur, un ogre chaman, artefact creature. Là, ça reste dans la thématique de Kamigawa. Ils sont supposés être. Les cartes suivent un peu le set. Pour deux colorless, un rouge, une 3-3 avec un nouveau keyword, Starting Intensity de 1. Et à chaque fois que le Bellows Brett Augur attaque, il fait des dommages égaux à son intensité à n'importe quel target et son intensité augmente de 1 perpétuellement.
J'aime ça.
Fait que ça me semble être une carte intéressante. On verra ce que ça va donner. Ça a du burn un peu, du removal.
Fait que c'est comme un genre de cumulatif damage à chaque fois.
C'est le genre de cumulatif damage. Tu attaques la première fois, tu fais un à un target. Tu attaques la deuxième fois, tu fais deux.
Pour trois, c'est
dommage
fort.
Dans un deck rouge-noir là, que tu peux ressusciter souvent, puis tu veux plein de monde souvent.
Oui, parce que c'est perpétuellement. Si tu le ramènes en jeu, son intensité est encore à 2, 3, là. Peu importe où est-ce qu'il est rendu.
T'arranges pour y donner haste pour pouvoir plus facilement monter.
Idéalement, là, avec le petit lapin que tu peux, tu peux reconfigure.
C'est dommage fort, 3-3 pour 3.
Je sais, Jason. Ben oui, mais Jason, on... C'est ça qui se passe, là. Ça prend des cartes qu'on va pouvoir utiliser. Puis,
là, vous m'avez dit rouge, mais la blanche que j'avais en jeu était en, en tête était aussi bien forte. Vous avez choisi le rouge, fait que c'est la carte de la semaine. C'est le Bellows Brett Auger.
Qu'on pourra pas jamais jouer à moins qu'on joue sur Alchimie, sur Arena.
C'est sur Arena Alchimie, mais ouais. Donc c'était pas joué dans le Championship. Là.
Non, c'était pas joué dans le Championship, c'est pas encore sorti.
Les spoilers du prochain set d'Alchimie.
Ouais, j'ai pas la date de quand ça va sortir, là, mais c'est bientôt, là, incessamment. Ouais. Avant la sortie du prochain set. Là.
Ouais. Ah, c'est cool.
C'est un vrai nom, c'est un vrai mot, incessamment. Ça se dit. Merci Emmanuel, j'aime beaucoup
plaisir.
Cette carte-là. On va retourner à la deuxième partie d'émission, en apprendre plus sur comment ça s'est déroulé. Néon Dynasty Championship, mais avant, Vita Bowl. Et voilà, ça nous amène. Il y a un Canadien qui joue mono blanc.
Ça nous amène. Écoute, on skip les préliminaires. Là, on passe tout de suite au crunchy. On sort au top 8. Deux personnes s'étaient qualifiées directement pour le top 8, dont Jim Davis. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un joueur de Magic qui joue à Magic depuis longtemps. Il s'est un petit peu retiré de la scène compétitive, mais il stream beaucoup. Il fait beaucoup, beaucoup de contenu en ce moment. Il a sa chaîne YouTube, Twitch, etc.
C'est le créateur de Garfield aussi.
Exactement, c'est lui. À souligner qui s'est qualifié pour le top 8 avec une fiche de 12-0 en ronde préliminaire, ce qui le qualifie automatiquement. Là, après ça, il pouvait se reposer pour les trois prochaines rondes là, parce qu'il y a 15 matchs, mais il n'y a pas besoin. Rendu à 12 victoires, tu te qualifies direct, fait qu'il a pu aller faire une sieste. Le connaissant, il a probablement dû juste continuer à jouer à Magic. Là, mais
il joue dans le staff depuis 2014.
Ouais. Puis donc voilà. Et puis intéressant aussi à noter qu'il y avait un deck Grixis mid-range qui était comme une version, on va regarder tantôt là, les autres archétypes. Là. Il y avait plusieurs versions de ce deck-là qui se ressemblaient en Grixis, en Mardu ou simplement en Rakdos. Fait que c'était, il y avait du rouge noir, puis soit du blanc ou du bleu, là, mais c'était un archétype assez qui se retrouvait un peu partout dans le tournoi, assez mid-range, du removal, du land 8 et quelques petits combos qu'on va regarder tantôt.
Du land 8?
Du end 8, pardon, du discard.
OK.
Ouais. Jean-Emmanuel Depra, le français, un habitué des top 8, un habitué du dimanche, là, c'est lui qui avait terminé finaliste là, au dernier championnat du monde. Oui. Il est souvent là le dimanche. Là. C'est rendu la joke sur les commentateurs, c'est que c'est pas le top 8, c'est le top 7 plus Jean-Emmanuel Depra. Parce qu'il est souvent là. Et puis, il était dans une gang, tout seul de sa gang, il était un peu à contre-courant là, dans la nouvelle dynamique que tout le monde s'entraîne en grosse équipe. Les Japonais, il y avait même la nouvelle School for Gifted Sorcerer, où je me rappelle plus trop comment ils l'ont appelé, là, la team de Andrea Mengucci. Ils sont allés ramasser à peu près là, 20-25 là, un gros joueur de Magic pour faire des playtests ensemble. C'est une grosse équipe. On pourrait peut-être s'en reparler dans les prochains tournois, si ça marche bien.
Il faut qu'il gagne.
Donc, lui, il s'est un petit peu pratiqué tout seul. Il a brewé son propre deck. Il s'est ramassé avec un deck là, en alchimie de Jeskai Hinata. On peut regarder rapidement. Là, le concept de ce deck-là, c'est de jouer Hinata, une des créatures de Neon Dynasty. Pour un colorless, un bleu, un rouge, un blanc. Là, on est dans le Jeskai pur. Un Kirin Spirit 4-4 Flying Trample qui est chaque spell que tu castes coûte un colorless de moins à caster pour chaque target. Okay. Et les spells que ton opponent caste coûtent un colorless de plus pour chaque target.
Ok.
Donc ça compte sur, mettons, les counter spells, ces affaires-là.
Ouais.
Ça rajoute une taxe, mais c'est surtout combiné avec un spell comme Magma Opus.
Retour.
De Strixhaven, qui coûte 6 colorless, un bleu, un rouge, mais c'est un instant que Magma deals 4 damage divisé sur n'importe quel nombre de targets. Tu tapes 2 targets permanent et tu crées une 4-4 Blue Red Elemental Creature Token et tu piges 2 cartes. Le fait que si tu lis la carte, tu peux aller jusqu'à 6 targets.
Ah oui, ah oui.
Donc réduire le coût de la carte à un colorless, plutôt à un rouge, un bleu pour faire bon un dégât sur 4 targets, taper 2 permanents, faire une 4-4 et piger 2 cartes.
En instant, à part de ça,
en instant,
ça avait d'abord une aventure les plus pires.
Fait que c'était un petit peu tout le deck, là, il était un peu autour de ça. Ça sortait vite, puis c'était intéressant, mais ça ressemble un peu à des listes qu'on avait déjà vues là, dans le Jeskai, puis dans le Izzet avec des Unexpected Windfall.
Ouais, le spell des taux de plus.
Non.
Les petits oiseaux, là, bon, on oublie ça. Bon.
Non, c'est fini ce temps-là.
Fini ce temps-là.
La méta a évolué, Tony. Donc ça c'était pour Jaiman Luel de Pro. Sinon, il y avait du Mardu Midrange dont on a parlé un peu. Mono White Aggro avec effectivement le Canadien John Gutman. Esper Clerics qui était un truc qui se retrouvait.
Là, c'est bizarre, c'est comme les Clerics de Zendikar Rising, là.
Un peu, oui, avec le cléric qu'on a vu tantôt qui te permet d'aller jouer des cartes de plus. Là. Oui. Puis, les oui, effectivement, l'ange 2-4 que tu gagnes la vie quand tu joues un cléric et puis si tu as plus de life, si tu fais plus de à toutes tes créatures, etc. Oui, c'est
une liste. De life game, parce que je suis vraiment curieux de le voir.
C'est une liste qu'on a vue et revue. Une liste qu'on n'a pas vue, par exemple, c'est Orza Venture. Ça c'est intéressant et c'est un peu le seul endroit où est-ce qu'on va voir ça possible, c'est dans un tournoi d'alchimie. Parce que Venture into the Dungeon, ça n'a jamais été considéré comme une mécanique tellement compétitive.
Ouais, mais là, c'est enfin là, le deck
mais
de
là,
Venture into the Dungeon.
C'est là, c'était le groupe de LSV, là, Scott Vargas, qui avait playtesté ça. Si on se rappelle quelques épisodes quand on a parlé des dernières rebalances de Alchemy, j'avais dit qu'il avait essayé de pousser un peu l'archétype Venture into the Dungeon, fait qu'ils ont modifié quelques cartes pour les rendre un peu plus alléchantes et ça a fonctionné visiblement parce que il y en a plusieurs qui le jouaient, dont deux qui se sont rendus dans le top 8, Brent Voss et puis Eli Cassis. Alors voilà, ça dresse un peu le portrait du top 8. Malheureusement pour Jim Davis et son parcours impeccable, ça s'est un peu gâché. Ça s'est un petit peu gâché en fin de parcours. Il a été éliminé dès le départ. Là, il a été descendu dans le lower bracket et il a perdu ses deux matchs. Puis Jean-Emmanuel Depra, lui, a aussi perdu son premier match, gagné son deuxième et perdu son troisième. Mais Eli Cassis, qui avait battu Jim Davis au début, qui a perdu son deuxième match, s'est retrouvé dans le lower bracket, là, le bracket des perdants qui appelle où est-ce que tu as plus de matchs à jouer. S'est finalement rendu jusqu'en finale contre Zach Dunn, qui lui a fait qu'une bouchée du bracket supérieur pour se retrouver en finale avec son deck de Mardu Midrange. On peut aller le regarder si vous voulez.
C'est quand même pas pire de. Parce qu'il a perdu autant de games que celui qui a pas gagné à la finale, mais c'est qu'il a perdu la game au bon moment. Là. C'est pas pire, ce concept-là. Félicitations.
C'est un concept où est-ce que tu dois perdre deux fois avant d'être éliminé. Là.
Bon.
Donc, le deck de Mardu Midrange que jouait Zach Dunn en finale, comme je vous disais tantôt, c'est un deck qui ressemblait à d'autres decks un peu là, qui étaient tous midrange, qui jouaient rouge et noir. On va regarder les cartes sur principales qui étaient dedans. C'était surtout que j'ai trouvé intéressant, et ça, c'est une carte qui a commencé à avoir de plus en plus de jeux. C'est le Fable of the Mirror Breaker, la saga qui t'amène un Kikijiki sur le terrain. Hein, le Reflection of Kikijiki, la troisième, quand tu flippes, ça fait un 2-2 que tu payes un colorless pour le taper et créer un token qui est une copie d'un non-legendary creature que tu contrôles, sauf qu'elle a haste et tu la sacrifies au début de ton end step. Souvent, ça, tu veux mettre ça avec des cartes qui ont des Enter the Battlefield effect.
Ben oui.
Ça joue avec une carte qui est dans Alchemy. Le City Stalker Konwasai, pour 3 colorless, un noir, un vampire 3-3 Dead Touch. Quand elle rentre en jeu, Target Opponent discarte une carte qui a le plus grand mana value parmi les cartes qu'il y a dans sa main et tu crées un Blood Token. Ce qui est intéressant avec Kikijiki, hein, c'est que ça te permet de mettre des créatures en jeu avec Flash.
Oui, effectivement.
Grosso modo, parce que tu peux activer son habilité n'importe quand.
Fait que là, tu peux ramasser avec ton vampire qui est tapé pour attaquer, mais là, tu peux en créer un Dead Touch qui apparaît pour bloquer
en fait, le tour de l'autre. Oui, surtout, c'est plus que tu peux softlock, là, qui appelle, en guillemets, là, tu peux softlock ton opponent à son draw step. Il pige la carte, puis tu l'actives tout de suite, puis si c'est pas un instant, il discarte la carte, fait qu'il peut juste plus piger de carte. Hein? Jusqu'à temps qu'il pigerait, ben, parce que tu peux mettre une créature en jeu, tu peux créer le token au draw step.
Okay.
Avant même de passer au main phase, avant même de pouvoir le caster à Sorcery Speed, ben, tu crées ton token, tu lui fais discarter ta carte. Si c'est un instant, ben, ça force ton adversaire à jouer, là, ce qui n'est pas nécessairement très bon. Là.
Toi, t'appelles ça soft lock, mais il y en a qui ont dû appeler ça calice de tabarnak. Hein,
c'est oui, c'est effectivement le genre d'affaire qui te fait flipper une table. Puis si t'as pas ce target-là, ben t'as toujours ton Skyclave Apparition qui est un bon target à blinker.
Je vois qu'il joue le Wedding Invitation là, de Crimson Vow. Là.
Oui. Il y a beaucoup de decks qui le
jouent. C'est à chaque end step, il fait un token, je pense. Hein?
À chaque end step, il fait un token. Si tu n'as pas attaqué avec deux créatures, si tu as attaqué avec deux créatures, tu piges une carte. Puis après 3 tours, elle vire de bord. Elle arrête de créer des tokens, mais ça fait un plus un à toutes tes créatures, dont les tokens qui ont été créés. C'est une bonne façon de grossir ton board là, assez rapidement. C'est une carte qui était très jouée. Là.
Moi, ce que j'aime dans ce deck-là, c'est que il y a une carte qu'il y a 4 fois. Je trouve ça pas mal cool. Non, c'est pas vrai, il y a l'autre vampire, mais c'est très varié. Chaque game est pareil, puis j'ai pas l'impression que la gamique que tu viens de nous parler avec Kikijiki est indispensable pour être compétitif et avoir une bonne game.
Non, mais c'est une grosse partie du jeu, mais tu sais, c'est un deck qui jouait aussi des Planeswalker avec 2 Wandering Emperor, le Sorin.
Lot Spider Queen.
Et Lot le Spider Queen. Valkyrie également.
Valkyrie, ouais, c'est.
Qui était là. Un peu de removal avec Vanishing Verse, Power Kill, du End Aid, comme je disais, du Discard avec du Rest et le Konwasar. C'est un deck, là, c'est un deck mid-range qui a vraiment un petit peu de tout. Du removal, du contrôle, des créatures pour attaquer.
En fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est 4e carte sont surtout dans le sideboard. Là.
Ouais.
Ah ouais, ben oui, on voit ça.
La quatrième copie. Là.
Dépendamment de. Il y a même son Meetook Massacre, là, si
c'est
pas aggro. Là.
Yes.
Comment bon, cette carte-là.
C'est ça. Fait que si vous regardez ce deck-là, vous allez avoir compris c'est quoi tous les autres decks de mid-range à peu près, là, comme celui de Jim Davis, qui était lui avec du bleu à la place. Du blanc, mais c'est un petit peu le même concept. Là, ça assiste.
J'ai une anecdote sur les pathways.
Vas-y donc.
C'est les pathways, ça c'était dans Zendikar Rising, là, c'est les double land des deux côtés. Puis dans Kaldheim, t'avais les. Comment ça s'appelait dans Kaldheim? Non, c'était les. Il y avait un nom aussi, là. Qui étaient aussi les double land des deux côtés. Parce que là, j'ai commencé. Tu sais, on est habitué depuis. Ça fait comme quasiment 2 ans là, que ces genres de laines-là sont sortis. Ouais. On était vraiment habitué à les voir sur Arena, ça fait pas vraiment de différence. Mais là, j'ai vraiment commencé beaucoup à jouer en magasin ce mois-ci. Là. Puis c'est très drôle. C'est parce que les laines en tant que telles, ils oublient souvent de les remettre du bon bord.
Ouais.
Parce qu'ils vont le sortir du sleeve, là, ils la remettent de l'autre bord, les le jouent. C'est quelque chose qu'on était habitué avec les créatures pis ça dans Innistrad, mais ça dérangeait moins. Mais là, pour les laines, C'est on voit beaucoup de gens, ça fait beaucoup de gossage de sleeve.
Ouais.
Il y a pas un côté plus important que l'autre, là, pas comme une
carte. Parce que t'es obligé de le mettre
techniquement,
du bord top, là, tu sais.
Ouais. Okay.
Dans toutes les zones sauf le battlefield. La carte compte pour le top.
Le top, ok.
Mais le problème, c'est qu'après, tu sais, mettons, après une game d'une demi-heure, là,
tu ramasses les cartes et
tu oublies de remettre. Tu sais, les gens se disent, ok, attends, faut que je remets mes cartes du bon bord.
Ça, là, ça, troisième offense, la Magic Police arrive, puis attends, ton deck.
Oui, oui.
Tu t'en vas chez vous, tu vas jouer à Hearthstone. C'est comme tout le monde.
Spoiler alert, on est rendu à la fin du tournoi et le grand gagnant, Eli Cassis, qui a remporté le tournoi. On en a parlé brièvement, il était là avec son deck de Orza Venture, donc c'est, et Andy sera content, c'est Venture into the Dungeon qui a gagné le tournoi, Tony. Un deck qui
tant de modifications que ça, là, dans le sens que enlever des colorless ici pis là, mais pas comme casser le jeu avec ça. Je suis content, c'est ça que je veux dire. Je vais te laisser parler là, après avoir fini cette phrase-là, maintenant.
C'est la mécanique mal aimée de 2021.
Ben oui. Mal aimé par le jeu, puis aimé par les joueurs.
Elle était fun, mais elle était pas au rendez-vous.
Et ça. C'est ça. Mais on s'est rendu compte que finalement, ça n'en prenait pas tant de Venturing to the Dungeon pour que ça devienne intéressant. Puis il avait pas changé. C'est pas comme s'il avait changé les donjons là, comme tel. Ils ont juste changé les cartes qui venaient avec. Mm-hmm. Puis si on regarde le deck, oui, Venture fait partie du plan de match, mais un peu comme on avait parlé quand la mécanique était sortie, c'était pas ça qui gagnait la partie, tu sais, c'était une valeur ajoutée. Okay. C'est effectivement comme ça qu'ils l'ont joué, puis on a vu dans le match final, quelques fois, le joueur allait dans le grand donjon, le of the Mad Mage, parce qu'il trouvait qu'il allait avoir assez d'occasions pour avancer, pour se rendre jusqu'à la dernière case, où est-ce que c'est... Il y a beaucoup de valeur, là, où est-ce que tu peux...
Le gros à plusieurs salles.
Oui, celui-là à plusieurs salles, où tu piges trois cartes, puis tu peux en jouer deux sans caster leur mana cost, quelque chose comme ça. Là. Si tu te rends là, ça vaut la peine, c'est quand même toute une aventure pour se rendre.
Je check là, puis OK, il y a le...
Okay,
y a
le dans le deck qui sont reliés à Venturing to the Dungeon, il y avait Nador, Selfless Paladin, qui lui n'avait pas été modifié, mais qui reste comme quand même une excellente créature de base. Là, c'est une 3-3 vigilance pour deux colorless, un blanc. Quelqu'un elle rentre sur le battlefield ou qu'elle attaque, tu Venture into the Dungeon. Puis si tu as complété un donjon, les autres créatures que tu contrôles ont +1/+1. Mais c'était surtout, et c'est le petit fatigant de la gang, c'est le Triumphant Adventurer.
Ah oui.
Un blanc, un noir, une créature assez cheap. Celui-là a été modifié, mais pas beaucoup. Avant, c'était une 1-1. Il l'avait transformé en 2-1 avec alchimie. Mais elle a Dead Touch et à chaque fois que c'est ton tour, elle a First Strike. Fait que là, First Strike, Dead Touch, c'est chiant. On n'aime pas ça. C'est des keywords assez chiants à dealer avec. Et à chaque fois que tu attaques avec le Triumphant Adventurer, tu Venture into the Dungeon. Fait que c'est comme pas la carte que tu veux vraiment bloquer ou c'est un tough à bloquer parce que là, surtout avec l'augmentation de Earth Power, ça te prend plusieurs créatures pour essayer de la bloquer ou ça te prend du removal pour l'enlever.
Ouais.
Parce que sinon, tu fais juste Chump Block puis elle va rattaquer au prochain tour puis elle va encore Venture into the Dungeon.
Ouais.
Il y avait Precipitous Drop qui se souciait du donjon. C'est un aura qui donne -2/-2 à une créature, mais ça devient -5/-5 si tu as complété un donjon. Okay. Puis quand elle rentre en jeu, tu Venture into the Dungeon. Mais on a fait le tour de toutes les cartes là, qui avait rapport à Venture into the Dungeon. Ça en fait 12 en tout dans le deck. Fait que c'était pas beaucoup, mais ça faisait une espèce de deck, encore là, très mid-range, avec un peu de removal, avec des créatures, avec de la valeur ajoutée. On voit encore les City Stalker Connoisseur qui reviennent là. Lisa Forgotten Angel qui te permet de ramener les cartes quand tu te fais remover tes créatures. Elles reviennent dans ta main. Et puis également The Wandering Emperor qui était quasiment obligatoire à rajouter dans ton deck si tu jouais du blanc. Fait que c'était un deck, tu sais, qu'il y a même des Meetook Massacre dans le sideboard selon les match-ups, quelques créatures intéressantes à jouer, Graveyard Trespasser, si t'as besoin d'enlever les graveyards de l'autre, même chose avec Go Blank, là, si tu jouais contre des decks, disons, Jeskai qui veulent caster des spells de leur, ou Rakdos. Donc voilà. Fait que c'était le deck qui a gagné, on est content pour Elite Cassis. Puis pour la mécanique Venture into the Dungeon en général.
Ben oui, c'est le fun que ça l'ait réussi à se tailler une place de même.
Ben ça a comme donné une espèce de confirmation. Là, je sais pas là, tu que.
Il y avait un land qui donnait du rouge dans le.
Et sais-tu pourquoi?
Non.
Pour le off chance que tu pourrais jouer Valkyrie du bord de Tibal.
Ben oui. Tibal de...
Peut-être. Ben oui. Un moment donné. C'est arrivé.
C'est bon.
C'est arrivé. Mais à un moment donné, il a joué Tibal, mais ça c'était vraiment juste pour faire un removal spell à 7. Là. ça coûte cher comme pour faire un removal, mais c'est quand t'en as besoin.
C'est ça que ça prend pour gagner puis que t'as le mana, écoute, on se privera pas rendu là. Merci beaucoup, Emmanuel, pour
ouais, ça fait plaisir. Tour
d'horizon. Jason, t'as une face d'un sphinx qui veut se prononcer. T'es-tu content des pronostics puis des affaires qui se sont passées?
Moi, je suis complètement perdu avec Alchemy, fait que je veux continuer à jouer du Magic sur table là.
Ah, on va voilà. Moi, j'aime beaucoup le concept de changer les. Tu sais, mettons là, que quelqu'un m'arrive avec la Wizard Class, puis que la troisième, à sa place de coûter 5, ça coûte 3 dans l'alchimie. Moi, j'aurais pas de problème que quelqu'un me dise on adapte la carte ou qu'on ressort Oko, puis que là, c'est avec la version modifiée. Moi, j'aurais pas de problème avec ça. Je sais que j'ai raison.
Ben, t'as qu'à bannir une carte aussi bien.
c'est ça. Et, écoutez, je m'excuse d'avoir été prétentieux. Merci, Emmanuel, encore.
Un plaisir.
Ah ouais, merci à Jason d'être passé nous voir. Merci à Martin Godette qui s'occupe du montage, à Radio H2O et podcast.com de nous héberger. Merci à l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. Allez voir sur Facebook, c'est pas mal la place où ça se passe. Merci à Bone pour les beats. Et on est disponible sur Spotify. Puis merci à Nono si vous n'avez pas été mal commode. Mon nom, c'est Tommy Godette et je vous souhaite à tous et à toutes, essayez ça, Venture. Mais d'un poète manasco.
Membre de la famille H2O Web Media.